Le journal Jean-Michel Naga, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Ça pourrait couper l'appétit, du moins pour ceux qui apprécient ce plat de fête. Le foie gras épinglé par la répression des fraudes. Elle a repéré des blocs de foie gras gonflés à l'eau et ce n'est pas le seul vice de fabrication qui est pointé du doigt. Une attaque à caractère antisémite hier soir près de New York, une attaque à l'arme blanche contre une communauté juive réunie chez un rabbin. 5 personnes blessées, un suspect arrêté, nous irons sur place dans un instant. L'ambassadeur d'Iran à Paris convoqué au Quai d'Orsay, c'est intolérable, c'est de l'ingérence, dit aujourd'hui Téhéran. Les autorités iraniennes refusent de s'expliquer au sujet des 2 chercheurs français détenus dans ce pays et accusés d'espionnage. Notre droit de suite, 1 an après la mise en place du prélèvement à la source, quel est le bilan? Est-ce un changement positif? Paye-t-on plus d'impôts finalement? On va en parler avec notre invité Vincent Drezet, secrétaire national du syndicat solidaire Finances Publiques, qui est dans notre studio. L'Erasmus des apprentis, c'est Nancy qui lance ce système d'échange pour les apprentis. Il sera destiné aux jeunes de 18 à 25 ans. Et puis, le palmarès du JDD, une fois de plus, la personnalité préférée des Français, c'est Jean-Jacques Goldman et Sophie Marceau. C'est une nouveauté cette année. Le palmarès respecte la parité homme-femme.
France Inter.
Des blocs de foie gras gonflés à l'eau, c'est donc l'un des points soulevés dans cette enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Bonjour Philippe Lefebvre.
Bonjour Jean-Michel.
Alors comment peut-on expliquer ce défaut de fabrication?
Alors il faut savoir que pour fabriquer un bloc de foie gras, on utilise de l'eau pour l'émulsion, c'est tout à fait légal. D'ailleurs il y a une limite qui est fixée à 10%. Sauf que là, visiblement, les enquêteurs de la Répression des Fraudes ont trouvé trop d'eau dans 9 échantillons. Sur 21. Alors cette eau, on imagine qu'elle n'est pas venue par hasard ou qu'il s'agisse d'un défaut de fabrication. Non, elle est belle et bien destinée à faire prendre artificiellement du poids au produit. En clair, on vous vend de l'eau au prix du foie gras. Et plus grave, 5 échantillons bénéficieraient de la très sérieuse indication géographique protégée foie gras du Sud-Ouest. Mais ce n'est pas la seule fraude. La DGCCRF pointe également la présence d'additifs interdits et mieux encore, sur des produits charcutiers au foie gras d'oie, il y aurait en fait des quantités ridicules de ce produit très haut de gamme, moins de 1% pour l'un d'eux. Alors la répression des fraudes parle de pratiques commerciales trompeuses, c'est bien le moins. 4 dossiers ont été transmis à la justice, mais pour le moment, la DGCCRF n'a pas donné de détails concernant les marques concernées par cette fraude, mais il n'est pas impossible que l'on trouve des grandes marques du Sud-Ouest vendues en grande surface, puisque 81% du foie gras français est vendu dans la grande distribution.
Merci beaucoup Philippe Lefebvre. La grève se poursuit aujourd'hui dans les transports en commun. 25e jour et toujours un trafic ferroviaire très perturbé. 6 TGV sur 10 en moyenne, un Transilien sur 5, 4 TER sur 10. À Paris, 13 lignes de métro sont entièrement fermées, trafic RER très perturbé également. Dans l'affaire de cette femme retrouvée morte dans un parc de Mougins dans les Alpes-Maritimes, le suspect a avoué. L'homme de 28 ans, interpellé vendredi, il a reconnu avoir étranglé sa victime, puis transporté le corps à Mougins. Le don du sang en difficulté pendant les fêtes, c'est souvent le cas en fin d'année. Et les mouvements sociaux accentuent un peu le phénomène. Il faut dire que les besoins sont importants. 10 000 dons par jour en France, c'est ce qu'il faut dans l'idéal. Et l'établissement français du sang attend avec impatience le retour des donneurs. À Aix-en-Provence, le reportage de Julia Beaufis.
Dans la salle de collecte, Daniel feuillette une revue pendant qu'une énorme machine prélève son plasma. Il essaye de venir donner à chaque vacances.
On en a besoin. C'est un acte de générosité. Il y a beaucoup de demandes. On est souvent en pénurie.
Une situation difficile dans les établissements français du sang, confirmée par le docteur Catherine Lazègue, responsable régionale des prélèvements pour la région PACA et la Corse.
C'est la période des fêtes. Il y a des personnes en vacances. Les gens vont tous à droite à gauche, sont très occupés. Et par contre, les malades sont toujours là.
Ces malades sont majoritairement atteints de pathologies chroniques comme le cancer. Alors le docteur insiste, il faut donner régulièrement.
Pour le don de sang total, on peut donner toutes les 8 semaines, 4 fois par an pour les femmes, 6 fois par an pour les hommes. Pour le don de plasma, on donne que la partie liquide du sang. Donc on peut donner tous les 15 jours. Et pour les plaquettes, elles ont une facilité de se régénérer et on peut donner tous les mois.
Pour donner, il faut remplir quelques critères. Peser plus de 50 kilos, être majeur et en bonne santé.
France Inter, le journal de 13h, Jean-Michel Naga.
5 personnes victimes d'une attaque à l'arme blanche hier soir près de New York. Un suspect a été arrêté selon les témoignages sur place. L'homme était armé d'une machette. Ses victimes étaient réunies avec des dizaines d'autres chez un rabbin pour une fête juive, les célébrations de Hanouka. Loïc Glory.
J'ai prié pour ma vie, affirme l'un des témoins. L'arme utilisée, dit-il, avait la taille d'un manche à balai. L'attaque est survenue un peu avant 10h à Monsey, à quelques dizaines de kilomètres au nord de New York. C'est la résidence d'un rabbin hassidique qui a été prise pour cible. Sur place, des juifs orthodoxes réunis pour les célébrations de Hanouka. Un homme y a donc fait irruption avant de poignarder quiconque se trouvait à sa portée. L'individu en question prend alors la fuite, finalement rattrapé 2 heures plus tard dans le quartier New-Yorkais de Harlem. La police ne précise pas encore les circonstances ou surtout les mobiles de son attaque. Mais tout cela, en tout cas, intervient alors que les autorités ont enregistré ces derniers mois une recrudescence des actes antisémites dans la région. Nous ne tolérerons pas, affirme le maire de New York, que cela devienne une nouvelle normalité. New York, Loïc Lory, France Inter.
Occupez-vous de vos affaires, c'est en substance le message adressé par Téhéran à Paris, les autorités iraniennes qui dénoncent une ingérence de la France dans l'affaire de Fariba Adelka, cette anthropologue franco-iranienne accusée d'espionnage et détenue dans ce pays avec un autre chercheur français, Roland Marchal. Le ministère français des Affaires étrangères ne cache pas ses inquiétudes à leur sujet, d'autant plus que Fariba Adelka vient d'entamer une grève de la faim. Nadine Epstein.
La demande française d'une libération sans délai des 2 chercheurs français adressée à Téhéran vendredi vient d'être rejetée par l'Iran. L'Iran proclame que la France n'a pas à se mêler d'une affaire d'espionnage et de sûreté nationale impliquant une citoyenne iranienne et un ressortissant français dont les droits et les contacts avec son consulat ont été respectés. Détenue depuis près de 8 mois, la situation des 2 universitaires s'aggrave. Les discrètes négociations diplomatiques s'avèrent si infructueuses que Fariba Adelkar, inquiète pour son sort, observe depuis mardi une grève de la faim illimitée. Retenue par les gardiens de la Révolution, elle a parlé de conditions de détention extrêmement dures, de torture psychologique et de violation des droits humains fondamentaux. L'anthropologue ne peut pas s'entretenir avec des représentants français. Téhéran ne retient que sa nationalité iranienne, bien qu'elle soit aussi française. Les accusations iraniennes d'espionnage et de complot contre la sûreté sont grotesques, ont protesté les collègues des 2 universitaires emprisonnés.
En Ukraine, c'est une scène pour le moins étonnante. Depuis ce matin, on procède là-bas à des échanges de prisonniers dans la région de Donetsk. D'un côté, il y a Kiev, les autorités ukrainiennes, et de l'autre, des séparatistes, partisans de la Russie. Cet échange, c'est une façon de calmer les tensions dans le conflit qui les oppose. Stéphane Sion.
En début de matinée, les 2 camps ont fait venir des bus sur un point de contact de la ligne de front, près de la ville de Gorlivka. Ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que les séparatistes vont rendre 55 prisonniers à l'Ukraine, principalement des soldats, mais aussi quelques civils ainsi qu'un journaliste de Radio Free Europe. Les Ukrainiens vont quant à eux libérer 87 individus, et c'est justement cette liste qui provoque déjà un intense débat en Ukraine. En effet, selon toute vraisemblance, Kiev va libérer 5 officiers Berkout, ses forces spéciales anti-émeute qui avait réprimé la révolution de Maïdan. Ces 5 hommes sont suspectés d'être responsables de la mort de 48 manifestants à Kiev le 20 février 2014. Ils ont été libérés samedi par un tribunal sans que la justice ait répondu de leurs actes. En les livrant aux Russes, Volodymyr Zelensky fait un pari politique très risqué. Il échange la liberté de ses soldats prisonniers contre la justice pour les événements dramatiques de Maïdan, et pour cela, il pourrait subir les foudres d'une partie de son opinion publique. Stéphane Siouan à Kiev pour France Inter.
On vous en parlait dans nos éditions ce matin, cette première à Marseille, les premiers passagers français qui embarquent sur un tout nouveau paquebot de croisière alimenté au gaz naturel liquéfié, le Costa Smeralda, avec ses 337 mètres de long et ses 2600 cabines, et qui ouvre en fait une nouvelle ère dans le monde du transport maritime avec des bateaux plus respectueux de l'environnement, notamment grâce à ce carburant fossile beaucoup moins polluant, le GNL. Les défenseurs de l'environnement applaudissent, même s'il reste beaucoup à faire pour limiter la pollution des grands navires de croisière. Gilles Marcel est le porte-parole de France Nature Environnement en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Techniquement, c'est quand même une évolution intéressante, donc il ne faut pas négliger l'investissement. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que le GNL, c'est un moyen de transition, ce n'est pas une fin en soi. Et il faut arriver à baisser encore plus les questions de pollution de ces énormes navires, hein, parce que là, ça reste quand même, y compris avec du GNL, ça reste quand même quelque chose qui va polluer. C'est vraiment un début, hein, c'est le premier. Il y a d'autres évolutions qui vont se faire. On a eu une décision politique très forte en septembre du Conseil régional qui a demandé justement aux armateurs qui les a réunis pour qu'ils utilisent l'électrification des quais qui sont en cours. C'est-à-dire qu'à l'arrêt, nous, ce qu'on demande, c'est que les navires ne fonctionnent pas avec leur moteur de croisière, mais soient alimentés avec de l'électricité de manière à beaucoup moins polluer, puis aussi faire beaucoup moins de bruit. Parce que c'est un ensemble, hein, vous voyez, du point de vue sanitaire, oui.
Gilles Marcel, donc de France Nature Environnement. Notre droit de suite, un an après la mise en place du prélèvement à la source, c'était le 1er janvier 2019, les impôts désormais prélevés directement sur nos salaires. On va parler avec notre invité Vincent Drezet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire national de Solidaires Finances Publiques, c'est le premier syndicat de Bercy. Mais avant cela, on fait, si vous le voulez bien, un retour en arrière. Il y a un an donc, certains contribuables n'étaient pas du tout emballés par ce changement. Écoutez.
J'ai reçu mon taux de prélèvement qui est passé de 3,2 à 7,70% malgré la baisse de ma retraite. J'ai dû aller hier matin au centre des impôts de Vierzon où j'ai rencontré une personne très sympathique qui a mis trois quarts d'heure à démêler ma situation. Total, je vais retomber au prélèvement précédent à 3,2. Mais en attendant, je vais payer pendant trois mois 123 euros au lieu de 55. Ces 123 euros multipliés par 3 ne me seront remboursés qu'en 2020. Et je voudrais que vous fassiez remonter ça parce qu'ils ont l'air de dire, le gouvernement, que tout va bien.
À chaud, vraiment, bah, ça fait mal, quoi. Ça fait mal. À la fin de l'année, d'un point de vue comptable, ça ne va rien changer. Mais en termes de pouvoir d'achat mensuel, j'ai l'impression que ça va changer quelque chose. Il y a certains sacrifices que je vais devoir faire. Ça sera des sorties en moins, du cinéma en moins, des restaurants notamment en moins.
Beaucoup d'entreprises n'ont pas reçu encore le pourcentage de prélèvement, donc ça va poser problème. J'ai eu des cabinets comptables en ligne et qui m'ont dit aussi que ça les inquiétait. C'est une surcharge de travail, bien sûr, mais aussi je pense que ça va être quelque chose qui va être difficile à mettre en route en seulement quelques jours, quoi, sur le premier mois. C'est pas forcément énorme comme travail, mais c'est une contrainte étant donné qu'il peut y avoir des sanctions qui peuvent être appliquées aux entreprises alors qu'on fait le travail de l'administration.
Alors Vincent Drezet, il faut se souvenir du lancement de ce prélèvement de l'impôt à la source il y a un an. Il y avait des contraintes techniques et puis en matière de communication, c'était loin d'être le meilleur moment. C'était le début du mouvement des Gilets jaunes. C'était un pari risqué et pari gagné d'après vous ?
Alors, il y a plusieurs dimensions. Il faut se rappeler que ça a été lancé en 2015 par le gouvernement précédent.
Oui, ça a été repoussé.
Voilà, ça a mis du temps parce que c'est un chantier complexe, déjà, bon, techniquement parlant, parce qu'il y a eu un traitement informatique des bases de données, mais aussi législativement parlant, j'allais dire, parce qu'il faut adapter le droit fiscal, parce que cette année, en 2019, nous avons changé de système. Nous avons un impôt contemporain. Alors, en réalité, c'est pas si contemporain que ça, parce que l'histoire des crédits d'impôt, par exemple, mais il y a eu un vrai travail législatif et technique. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement et le président de la République eux-mêmes ont douté.
Oui, ils ont hésité jusqu'au dernier moment.
Oui, pour des raisons de bug, peut-être aussi d'acceptation de ce nouveau système, parce que c'est d'abord une révolution culturelle, hein, cette affaire-là, l'impôt contemporain. Et à l'époque, nous disions que le principal bug était au sommet de l'exécutif. Il n'était pas tant, j'allais dire, technique.
Et aujourd'hui, vous vous dites quoi ?
Alors aujourd'hui, techniquement,
le bilan est positif.
Techniquement, ça réussit. Il y a de nombreux mais. Il y a de nombreux mais qui tiennent, par exemple, au comportement des contribuables. Je dis comportement, pourquoi ? Parce que vous avez 38 millions de foyers fiscaux. Une petite moitié est imposable. Mais il n'y a que 2 millions de foyers fiscaux, alors nous parlons, qui ont modulé leur taux. Mmh. Alors que, quand on regarde de changements de situation professionnelle...
se sont adaptés à ce nouveau mode.
Oui. En réalité, il n'y en a que 2 millions qui se sont dit « Attention, c'est un impôt contemporain. Dès qu'il y a une naissance ou une séparation, un mariage, une hausse, une baisse de revenus, il faut adapter le taux. » Ça veut dire que l'immense majorité des contribuables imposables n'ont pas modulé leur taux, alors qu'une grande partie d'entre eux aurait dû le faire. Mmh. En réalité, le vrai bilan pourra le tirer l'année prochaine, après la déclaration des revenus de 2019, 2019 étant la vraie première année du prélèvement à la source.
Alors voilà, mais c'est une méthode qui rapporte aussi, hein. 2 milliards de recettes supplémentaires pour l'État uniquement pour cette année 2019. C'est quoi le secret ?
Ah, c'est le secret, c'est déjà une très bonne communication du ministre.
Oui.
En réalité, il y a deux raisons qui expliquent ça. La première, c'est que dans la loi de finances 2019, les prévisions de recettes étaient très prudentes. Elles étaient largement inférieures à l'ancien système. Donc déjà, mécaniquement, il suffit de se caler, j'allais dire, sur la statistique qui existait auparavant pour expliquer une bonne part du décalage. Mais surtout, plus profondément, il faut savoir que quand on passe à un impôt contemporain, ça veut dire qu'il n'y a plus de décalage d'un an. Avant, on payait par exemple en 2017 l'impôt sur 2000. 16, oui. Si on avait maintenu le système en 2019, on aurait payé sur 2018.
Et donc les revenus augmentent globalement.
Voilà, mais là on paye ça... les 2019 sur les revenus 2019. Et ce changement d'année d'assiette, comme on le dit dans le jargon technique, il explique à lui seul 1,5 milliard de recettes supplémentaires, tout simplement parce que tous les ans, il y a un peu plus de revenus qui sont distribués.
Dernière chose, les contribuables craignaient de payer plus d'impôts, on l'a entendu un an après, beaucoup de contribuables ont encore cette impression-là. C'est vrai, hein, finalement on paye plus.
Oui et non, c'est
chaque mois.
Oui et non, dans le sens où il y a une avance de trésorerie, ça c'est mécanique, parce qu'effectivement,
on avance de l'argent à l'État.
Voilà, on avance. Il y a pour un grand nombre de contribuables, en tout cas, il y a une avance d'argent, tout simplement, ouais, parce qu'on traite séparément les crédits d'impôt
et les réductions
d'impôt, et c'est régularisé un peu plus tard. Simplement, là où on ne paye pas plus, c'est que le système fiscal, lui, n'a pas changé. Or, le système fiscal, l'impôt sur le revenu, notamment, reste assez complexe et injuste. Mais ça, c'est le débat de la réforme fiscale qu'il faudrait mener.
Et cette réforme n'est pas forcément du plus bel effet, notamment pour le personnel des finances. Vous m'en parliez effectivement, et il y a eu des suppressions de postes, effectivement.
On a perdu 40 000 emplois depuis 2002, avec de l'accueil qui va continuer à s'accroître, et c'est un vrai problème dans le fonctionnement de l'État et des services publics.
Merci Vincent Drozet, je rappelle que vous êtes secrétaire national du premier syndicat à Bercy, Solidaires Finances Publiques. On le surnomme déjà l'Erasmus des apprentis, un système d'échange pour les apprentis sur le modèle d'Erasmus. C'est Nancy qui se lance dans cette démarche. La ville, le Rotary Club, la Chambre des métiers et de l'artisanat qui vont signer un partenariat cette semaine pour concrétiser ce programme. À partir de l'année prochaine, donc, des jeunes apprentis de 18 à 25 ans seront accueillis à des jeunes venant des villes jumelées avec Nancy. Marie Roussel.
On connaît tous ce dicton, les voyages forment la jeunesse et pourquoi pas aussi les apprentis. La question a longtemps travaillé la coiffeuse nancéenne Rachel Klein à l'origine de ce projet.
Aujourd'hui, tout le monde, un certain public d'études supérieures y a accès facilement, sans difficulté. Il semble que pour les apprentis, il faille un petit coup de pouce. Il faut vraiment essayer de les pousser à le faire à travers toute initiative possible.
Même si Erasmus s'adresse aussi aux apprentis, trop peu de Lorrains se décident à partir. C'est ce que constate Jean-Paul Daul, le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du département.
La difficulté qu'on peut rencontrer, justement, c'est de trouver des jeunes prêts à partir. C'est comme ça que le métier vient, en voyant, en découvrant d'autres choses. Moi, j'ai fait mon apprentissage à une époque où on restait toujours sur place. Aujourd'hui, il faut être mobile.
Les apprentis pourront ainsi partir pour un stage d'observation de 2 mois. Et le premier à inaugurer ce programme s'appelle Kanta, un jeune coiffeur japonais de Kanazawa qui doit débarquer en mars prochain.
Alors au début, il va être, comme je vous dis, complètement paumé. Je sais qu'au bout de ces 2 mois, on aura fait plein de choses drôles, pas drôles. Enfin voilà, on aura amélioré notre expérience qu'on partagera sans aucun doute.
C'est le Rotary Club qui se chargera de trouver le gîte et le couvert en famille d'accueil.
C'est presque l'une des traditions de fin d'année, la publication dans le journal du dimanche du classement des personnalités préférées des Français, avec cette année encore sur la première marche du podium l'indéboulonnable et très discret Jean-Jacques Goldman. Et pour la première fois, l'auteur-compositeur partage la victoire avec quelqu'un d'autre, Sophie Marceau, une femme, car le classement devient paritaire. Bonjour Delphine Evenoux.
Bonjour.
Alors on peut le dire, cette parité, c'est en fait un reflet de cette année 2019.
Oui, une année de défense de la cause des femmes. L'an dernier, Sophie Marceau était déjà la première femme préférée des Français, mais elle ne se hissait qu'à la 16e place. Que des hommes dans le top 15 2018, le reflet de l'invisibilisation des femmes sur la scène publique. C'était énervé les associations. Le classement avait fait grincer des dents jusqu'au gouvernement, jusqu'à Marlène Schiappa. Cette année, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes salue l'initiative du journal de faire un classement paritaire. Palmarès 2019 marqué aussi par l'absence de personnalités politiques. Elles ont du mal à s'y imposer depuis plusieurs années, signe d'une défiance. L'an dernier, Nicolas Hulot avait péniblement atteint la 43e place cette année. Donc, plus aucun politique. Enfin, le classement du JDD reflète aussi un goût pour la discrétion. On ne parle pas de Jean-Jacques Goldman, qu'on ne voit quasiment jamais, sauf autour des enfoirés. Quant à Sophie Marceau, si elle vient de prêter sa voix à un documentaire sur Notre-Dame, elle a également quasiment disparu des écrans depuis 2 ans. Pour être populaire, vivez cachée.
Merci beaucoup Delphine Evenoux. On notera, pour être bien complet, sa quatrième place du rappeur marseillais Soprano, la montée spectaculaire de Marion Cotillard à la 2e place et le maintien en haut de classement d'Omar Sy et de Danny Boone.